RFI, il est 4h à Paris, 3h en temps universel, 22h à Washington.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal aux États-Unis, après les drapeaux, toujours en berne, l'hommage au président Jimmy Carter a commencé. Le début de 6 jours de cérémonie, donc ce samedi, avec pour point de départ la Géorgie. En Syrie, le nouveau dirigeant, Ahmed al-Shara, aussi connu sous le nom de Mohamed al-Joulani, s'est engagé à respecter toutes les minorités. Il a rencontré des responsables chrétiens cette semaine. On en parle dans ce journal. En Arabie Saoudite, un record d'exécution loin de l'image réformiste du pays. Au moins 338 condamnés à mort ont été exécutés en 2024. Une frénésie d'exécution dénonce les ONG. Et puis en France, les communes de Saint-Denis et Pierrefitte dans le nord de Paris ne sont plus qu'une seule ville. Les adieux à Jimmy Carter viennent de commencer aux États-Unis. L'ancien président est décédé le week-end dernier, à l'âge de 100 ans. L'hommage national a donc débuté ce samedi. 6 jours de cérémonie qui vont mener le convoi funéraire de l'ancien président à Washington. Et cet hommage a commencé donc ce samedi en Géorgie, là où Jimmy Carter est né et a fini sa vie, Loubna Anaki.
Devant la ferme où Jimmy Carter a grandi, la cloche a sonné 39 fois pour le 39e président des États-Unis. Le convoi funéraire a ensuite traversé de nombreuses communes avant d'arriver à Atlanta pour une minute de silence au Capitole, là où Jimmy Carter a commencé sa carrière politique. Tout au long du parcours, des centaines de personnes se sont rassemblées, attendant parfois des heures pour pouvoir rendre hommage à l'ancien président qui était très impliqué dans la vie locale. Il était très populaire parce que très accessible. Cet après-midi, une cérémonie est prévue à la Fondation Carter, après quoi le public pourra venir se recueillir jusqu'à mardi. Cette journée n'est que le début de l'hommage de la nation à Jimmy Carter. 6 jours de cérémonie qui culmineront le 9 janvier avec une journée de deuil national et des funérailles à Washington. Jimmy Carter sera ensuite inhumé auprès de son épouse Rosaline, chez eux à Plains, en Géorgie. Loubna Anaki, New York, RFI.
En Haïti, de nouveaux soldats du Guatemala sont arrivés à Port-au-Prince ce samedi. Leur objectif est d'aider la police d'Haïti à enrayer la violence des gangs. D'autres militaires du Guatemala et du Salvador également étaient déjà arrivés vendredi, ce qui porte leur nombre à 150 environ, selon un décompte de l'AFP. Ces soldats d'Amérique latine viennent renforcer les effectifs de la mission multinationale d'appui à la sécurité, dépendante de l'ONU. La mission menée par le Kenya et ses quelques 400 policiers fait face à un manque criant de moyens et n'a pas permis de diminuer les exactions des groupes armés. Par ailleurs, la violence de ces gangs ne semble pas faiblir depuis l'arrivée en juin des forces kenyanes. Ils contrôlent 85% de la capitale, selon l'ONU. RFI, il est 6h03 à Damas. En Syrie, les vols internationaux à destination et en provenance de l'aéroport international de la capitale reprendront ce mardi, annonce de l'agence de presse syrienne Sana. Le chef de la nouvelle administration, Ahmed al-Shara, aussi connu sous le nom de Mohamed al-Joulani, a rencontré plusieurs ministres européens des affaires étrangères cette semaine. Autre rencontre diplomatique avec des responsables chrétiens de Syrie. Devant eux, l'ancien combattant affilié à Al-Qaïda, désormais à la tête d'un pays multiconfessionnel, s'est engagé à respecter toutes les minorités. Un message qui se veut rassurant. Si certains chrétiens syriens attendent de voir les effets concrets de cette politique, pour d'autres, comme cette habitante à Homs, un espoir subsiste après les années de guerre.
Nous sommes une minorité. Je suis de la communauté syriaque et mon église, Oum al-Zenar, est juste derrière. Nous sommes du cœur de ce pays, comme on dit. Voilà pourquoi je veux croire que la situation va s'arranger. C'est ce qu'on espère toujours. On ne souhaite pas que le passé revienne. Et ce qu'on voit nous conforte, franchement. Avant, ici, quand les roquettes pleuvaient, on avait peur, car on ne savait pas où elles allaient tomber. On évitait de sortir dans la rue, de peur de recevoir un projectile. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On sait que les frappes ont lieu ici ou là, mais aujourd'hui, lorsqu'ils veulent arrêter quelqu'un, ils vont le chercher chez lui, il y a une organisation, un ordre, c'est assez rapide. On espère que ça ira mieux, on est confiant.
Voilà pour ces propos d'une habitante de Homs en Syrie. Dans la bande de Gaza ce samedi, une trentaine de morts après des frappes israéliennes selon les services de secours de Gaza. Au lendemain de la reprise de négociations à Doha pour une trêve dans le territoire palestinien dévasté par près de 15 mois de guerre. La reprise des négociations au Qatar avait été annoncée par le Hamas vendredi puis confirmée par Israël samedi. Le ministre de la Défense israélien précise que ce sont des négociations indirectes. Autre conflit en cours en Ukraine, Moscou a promis des représailles à Kiev ce samedi. L'armée russe a affirmé avoir intercepté 8 missiles américains tirés par Kiev contre le territoire russe. Une attaque présentée par Moscou comme une ligne rouge dans le conflit. Le président américain sortant Joe Biden avait donné son feu vert à l'Ukraine en novembre dernier pour l'utilisation de missiles américains par Kiev sur le sol russe. Décision à la suite du déploiement selon des pays occidentaux et l'Ukraine de milliers de soldats nord-coréens en soutien aux soldats de Moscou. Dans l'actualité également, un triste chiffre, au moins 338 personnes ont été exécutées en Arabie Saoudite en 2024. Un bilan record dans cette monarchie du Golfe Persique où la loi islamique est impitoyable face aux moindres délits. Deux organisations de défense des droits humains ont dénoncé cette semaine une frénésie sans précédent. Pourtant, le roi Mohamed Ben Salman procède depuis longtemps à donner une image moderne et réformiste du pays. Un double jeu selon Jid Bessiouni, directrice du pôle Moyen-Orient de l'ONG britannique pour les droits de l'homme.
Quand on parle de Mohamed Ben Salman, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit avoir réformé le système judiciaire saoudien, qui serait désormais aligné sur le droit international en ce qui concerne la peine de mort. Il a été prouvé que c'était un mensonge. Il a dit qu'il avait mis fin à la peine de mort pour les enfants, ce qui était aussi un mensonge. On sait que des enfants sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite. Il a dit que la peine de mort ne serait plus utilisée pour les délits liés à la drogue, encore un mensonge. Il suffit de gratter un peu sous la surface pour voir que Mohamed Ben Salman ne tient pas parole. Ce que j'aimerais voir, ce sont des dirigeants internationaux qui prennent davantage la parole sur les agissements de l'Arabie Saoudite. Mais malheureusement, ce que l'on constate, c'est que les dirigeants anglais, français, américains donnent la priorité aux investissements en Arabie Saoudite plutôt que de prendre la parole sur les droits humains. On ignore ces gens pour pouvoir passer des accords commerciaux avec le pays. Je trouve cela très triste.
Des propos recueillis par Marius Roland. En Corée du Sud, la journée d'hier a été particulièrement marquée par de nouvelles manifestations. Des milliers de personnes étaient encore dans les rues de Séoul au lendemain d'une tentative raté d'arrêter le président déchu Yoon Suk-yeol. Ce dernier est accusé de rébellion pour avoir tenté d'imposer la loi martiale début décembre. Ses partisans et ses opposants se sont rassemblés chacun de leur côté sur des avenues de la capitale et devant son domicile. En France, un mariage, ou plutôt une fusion entre deux communes attire l'attention. Deux élus socialistes ont fusionné leur ville depuis le 1er janvier. Saint-Denis et Pierrefitte, dans le nord de Paris, ne sont plus qu'une commune. La commune nouvelle de Saint-Denis compte désormais 150 000 habitants. C'est la deuxième ville la plus peuplée d'Île-de-France après Paris, Sylvie Coffi.
Saint-Denis et Pierrefitte, un mariage atypique pour le meilleur. Voulu par les deux édiles socialistes, Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, qui prend les rênes de cette nouvelle collectivité, et Michel Fourcade, maire de Pierrefitte-sur-Seine, qui siège en tant que premier adjoint. Une fusion qui va apporter des changements, mais qu'en pense cette habitante ?
Je suis de Saint-Denis et je travaille à Pierrefitte. Ça me paraît bien, pourquoi pas. Je pense que c'est bien pour les deux aussi. Parce que Saint-Denis, elle a grandi aussi son patrimoine. Pierrefitte, c'est petit. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour les services administratifs et tous les gens qui travaillent dans les mairies. J'imagine qu'il y aura une fusion. Peut-être ça va donner plus de possibilités pour Pierrefitte. Et ça ne va pas appauvrir Saint-Denis.
Baisse des impôts, cantine scolaire gratuite pour Pierrefitte. Concernant les services publics, la commune nouvelle va tout mutualiser. Elle aura aussi une dotation particulière réservée à ces communes qui fusionnent. Et ce samedi, le tout premier conseil municipal a rassemblé plus de 90 élus.
Sylvie Coffi, en France toujours, l'appel à la mobilisation des agriculteurs de la coordination rurale. Des interdictions de tout rassemblement non déclaré au centre de Paris et à Rungis à partir de dimanche 18h ont été annoncées par les autorités. Le syndicat agricole avait appelé précédemment à manifester ce 5 janvier en vue de bloquer la capitale notamment et de bloquer le marché de Rungis. Et puis un climat neigeux avec du verglas cette nuit. 30 départements sont en vigilance orange pour l'instant. Une perturbation qui a débuté lors de la fin de l'après-midi d'hier et qui doit toucher en particulier le nord et l'est du pays.